Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est le député des Yvelines, Benjamin Lucas, membre du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, membre de Génération. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Benjamin Lucas, après le débat de ce mardi à l'Assemblée sur l'immigration, un texte sur ce sujet sera examiné en début d'année prochaine. Dans Le Parisien, Emmanuel Macron estime qu'il faut être plus ferme avec les renvois de personnes en situation irrégulière, mais dans le même temps faciliter l'intégration des étrangers qui sont en situation régulière. Est-ce que vous êtes d'accord avec la philosophie de ce projet ?
Non, je ne partage pas la philosophie de ce projet. On en est à la 22e loi en matière d'immigration depuis que je suis né. J'ai 32 ans. Ça veut dire que ça fait en 32 ans 22 lois qu'on fait pour durcir, pour réprimer, pour brutaliser les exilés dans notre pays. Ça n'a aucun impact, évidemment, sur des phénomènes qui sont des phénomènes mondiaux, de gens qui fuient la guerre ou la misère. En même temps, de ce point de vue-là, est assez cynique. Moi, je crois qu'il n'y a pas de crise migratoire. Il y a en revanche une crise de l'accueil, une difficulté de la France à tenir ses engagements internationaux, notamment en matière de droits de l'homme et d'accueil des exilés. C'est de ça dont devrait se préoccuper le président de la République et son gouvernement.
Gérald Darmanin a résumé ce projet de loi avec cette formule, être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Est-ce qu'on peut accepter d'expulser les délinquants étrangers et en échange régulariser les étrangers qui travaillent, notamment dans les métiers dits en tension ?
Bon, d'abord, on ne parle pas d'une cour d'école. Donc le ministre de l'Intérieur s'est mieux inspiré de réviser un peu son vocabulaire. Moi, je crois qu'il faut se placer du point de vue du droit. La loi doit s'appliquer à toutes et à tous, quelle que soit sa nationalité. Je ne suis pas favorable à la double peine et je ne suis pas favorable à ce qu'on mette en balance le sort des travailleurs, du sort des autres, etc. Je crois que les exilés n'ont pas à être des variables d'ajustement ni économiques, ni politiques et médiatiques.
Alors, dans l'hôtellerie-restauration, le célèbre chef Thierry Marx a appelé ce week-end à une régularisation des salariés étrangers. Selon lui, il y a 200 000 postes non pourvus dans ce secteur. C'est une idée que vous approuvez ?
Bien sûr, je crois qu'on a besoin de régularisation importante. D'abord parce qu'il y a des millions de gens, des centaines de milliers de gens qui vivent ici, qui travaillent ici, qui cotisent ici et qui doivent être protégés et qui doivent pouvoir pleinement participer à la vie de la collectivité. Et je prends un exemple. Vous savez, on prétend que l'immigration, ce serait un coût, ce serait la source de tous les maux du pays. C'est ce que disent la droite et l'extrême droite de concert, et malheureusement certains aussi à gauche parfois, depuis des années. Quand l'Allemagne a accueilli 1 million de réfugiés syriens en 2015, ça a directement contribué à l'augmentation de ce produit intérieur brut, et on estime l'apport de cette ouverture sur 1 million d'exilés syriens à 0,4% du PIB en plus. Donc on voit bien 0,4% de croissance en plus. Donc on voit bien là aussi que tous les discours qui visent à affoler, à inquiéter, à apeurer sont des discours qui manquent complètement de lucidité et de raison.
Benjamin Lucas, un de vos amendements a été soumis au vote de l'Assemblée il y a quelques jours. Il s'agissait d'empêcher l'assouplissement des conditions d'expulsion des étrangers. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel cadre vous avez déposé cet amendement qui a été adopté par les députés ?
Oui, et je m'en réjouis. Il y a en ce moment une espèce de course de vitesse qui est faite entre les droites et l'extrême droite sur la question migratoire. L'enjeu est toujours le même, stigmatiser davantage, brutaliser davantage les exilés, les empêcher de recourir à leurs droits, etc. Et donc de ce point de vue-là, LR et Éric Ciotti avaient déposé une énième proposition de loi pour brutaliser encore plus, pour renforcer les dispositifs d'expulsion, etc. Une loi qui, à mon sens, n'allait pas dans le bon sens. Et donc, j'ai proposé un amendement de suppression de l'article unique de cette loi, ce qui revenait à la vider de sa substance. Et je me réjouis qu'il ait été adopté par, y compris des collègues de la majorité. J'espère qu'ils auront le même courage et qu'ils iront aussi loin quand il s'agira de résister à Gérald Darmanin et à son jeu de mimétisme à l'égard de propositions qui viennent de la droite dure, voire parfois de l'extrême droite.
Alors récemment, vous vous êtes rendu à bord de l'Ocean Viking, qui est actuellement à quai, en attendant de partir pour une nouvelle mission humanitaire. Qu'avez-vous retenu de cette visite et de votre rencontre avec les responsables de l'association SOS Méditerranée ?
Bon, j'en retiens une immense admiration pour celles et ceux qui s'engagent pour sauver des vies en Méditerranée. Ils le font dans des conditions qui sont beaucoup plus difficiles qu'avant. Là où il fallait avant quelques heures pour avoir un port auquel accoster, il faut aujourd'hui plusieurs jours, et même en l'occurrence, là pour l'Ocean Viking, la dernière fois, 15 jours. Donc on voit bien là qu'on est dans une situation où l'Europe ne tient pas sa place dans l'histoire et ne fait pas preuve de l'humanité minimale qu'on attend d'elle et de ses valeurs, quand des hommes, des femmes, des enfants risquent la mort en traversant la Méditerranée. L'enjeu n'est pas un enjeu de discussion théorique sur les politiques d'immigration, l'enjeu il est un enjeu de vie humaine qu'il appartient de sauver. Donc beaucoup d'admiration pour le courage, la détermination de SOS Méditerranée, de tous les humanitaires qui sauvent des vies. Ils sont en plus attaqués, menacés par une extrême droite extrêmement virulente, et leur courage, leur sincérité, leur engagement, je crois, fait honneur aux valeurs que nous défendons.
Alors justement, il y a eu un débat sur ces navires humanitaires qui sauvent des migrants. Certains responsables politiques et autres chroniqueurs accusent ces associations d'être liées aux passeurs. Que répondez-vous à cette accusation ?
Que c'est complètement farfelu, c'est absurde. Et c'est même insultant pour ce qui est l'engagement viscéral de ces humanitaires qui font de l'humanitaire. Ce ne sont pas des passeurs ou des complices des passeurs. Ceux qui sont les complices des passeurs, ce sont ceux qui veulent sans cesse mettre des conditions plus dures à l'accueil des exilés, ceux qui veulent construire des murs les plus hauts possibles, ceux qui veulent faire de la Méditerranée un cimetière. Parce que tant qu'il y aura ces politiques-là, des gens poussés au désespoir tenteront tout pour arriver dans les pays du Nord, comme on dit, y compris confier leur vie et leur fortune, enfin ce qu'il reste de leur fortune, de leur argent, à des passeurs. Donc les complices des passeurs, ce sont ceux qui tiennent un discours complètement absurde sur les politiques migratoires, qui est un discours de fermeté, qui est un discours d'inhumanité.
Benjamin Lucas, vous avez demandé la dissolution du parti Reconquête, parti fondé par Éric Zemmour il y a un an. Vous dénoncez depuis longtemps ses thèses et son idéologie, mais cette demande de dissolution est liée aux pressions de ce parti sur une enseignante qui a organisé une visite auprès des migrants de Calais. C'est bien l'origine de votre demande ?
Oui, ce qui se passe est extrêmement grave, extrêmement grave. Remettre en cause la liberté pédagogique, la liberté d'enseignement, c'est s'attaquer au fondement de l'école républicaine. Et je rappelle que par ailleurs, là, on parle d'étudiants en hippocagne, en classe préparatoire, qui allaient réaliser une sortie scolaire dans un cadre qui est parfaitement normal, légitime, et qui est à la libre appréciation d'une enseignante, un déplacement scolaire, une visite scolaire universitaire, si je puis dire, puisque ce sont des étudiants, qui ne contrevenaient à aucune règle particulière. Or, la pression, la menace, la mise en tension voulue par des groupuscules d'extrême droite jusque dans l'école porte atteinte à ce qui est un pilier de la République, qui est son école. Donc je crois qu'il y a là quelque chose d'extrêmement grave, et je suis extrêmement surpris et choqué de la frilosité du gouvernement à s'emparer de ce sujet et à répondre avec la plus grande fermeté. Si nous cédons maintenant à la mise en tension par l'extrême droite raciste du débat public, si nous cédons maintenant sur la liberté éducative, sur les fondements de notre école républicaine et laïque, alors je ne sais pas où ça s'arrêtera. Et je vois là une forme d'obscurantisme, et finalement, Éric Zemmour et ses adeptes se comportent comme les terroristes islamistes. Ils veulent faire régner la peur sur l'enseignement, la peur sur l'éducation nationale, la peur sur tout ce qui fonde des libertés et un débat démocratique apaisé dans notre pays. J'y vois là une très grave menace.
Benjamin Lucas, le comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale s'inquiète de l'ampleur des discours à caractère raciste et discriminatoire, notamment dans les médias et sur Internet en France. Est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce qu'il y a des risques de passage à l'acte ?
Oui, on sent une parole raciste qui se banalise, qui est même légitimée, puisqu'on entend du racisme jusqu'au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale avec un député RN il y a quelques semaines de cela. Puisque un candidat ouvertement raciste à l'élection présidentielle, Éric Zemmour, je rappelle qu'il a été condamné pour incitation à la haine raciale. C'est pas un procès d'intention de ma part, c'est une réalité juridique, peut aller de plateau en plateau, diffuser la haine, être invité, reçu partout, et peut même être candidat à la présidentielle, puisqu'il s'est trouvé plus de 500 élus de la République pour le parrainer à l'élection présidentielle. Donc on voit bien qu'on est dans un moment de bascule, on voit bien qu'on est dans un moment d'une prodigieuse offensive raciste. Faut-il décrire ce qui se passe à la télévision, sur CNews ou autres, qui banalise, qui légitime, qui encourage, qui accélère cette offensive raciste et xénophobe. Donc moi je suis extrêmement inquiet, comme des organismes internationaux, comme des grandes ONG, Et je crois que c'est la responsabilité maintenant de tous les républicains dans ce pays de reconstruire une digue, de remettre des valeurs et des boussoles dans le débat démocratique parce qu'il est aujourd'hui englouti par les thèmes et les termes fixés par l'extrême droite.
Benjamin Lucas, la maire écologiste de Strasbourg, va attaquer l'État en justice pour sa défaillance à mettre à l'abri les personnes à la rue. Jeanne Barseguian invite tous les élus et associations qui le souhaitent à se joindre à cette action. J'imagine que vous soutenez la démarche de la maire de Strasbourg.
Bien sûr, elle a raison. Elle a là tout le soutien des députés écologistes, mais j'espère évidemment au-delà, parce que l'État ne joue pas son rôle de protection, parce que l'État ne joue pas son rôle simplement d'application d'un certain nombre de lois, d'engagements européens, internationaux ou même nationaux, qui l'obligent à un devoir minimal d'humanité et de protection. Donc je crois qu'elle a là une démarche particulièrement bienvenue.
L'État pourrait réquisitionner des bâtiments vides comme l'y autorise finalement la loi ?
Oui, je crois que c'est la responsabilité de la puissance publique de tout faire pour mettre à l'abri celles et ceux qui en ont besoin dans un moment où il y a particulièrement de logements vacants, dans un moment où il y a de la spéculation immobilière, dans un moment où 3,5% des ménages possèdent 50% des logements alloués, ce qui montre bien qu'on est loin du fantasme du petit propriétaire comme modèle aujourd'hui dans le monde immobilier, hein, puisqu'on a entendu l'inverse là pendant quelques jours à l'Assemblée nationale à l'occasion d'un débat sur les squats. Donc oui, il est nécessaire que l'État joue son rôle de régulateur et de protecteur.
Benjamin Lucas, sur les violences conjugales, les députés ont adopté en première lecture la proposition de loi d'Aurélien Pradier visant à créer un pôle spécialisé aux violences infrafamiliales. Le gouvernement ne voulait pas de cette juridiction spécialisée. Comment accueillez-vous ce vote ?
Bah écoutez, c'est l'expression souveraine du Parlement, preuve qu'on est capable d'être constructif quand le gouvernement ne fait pas de l'obstruction et qu'il nous laisse travailler. Il y a une proposition qui vient de quelqu'un qui est loin d'être de notre bord, hein, nous les écologistes, et que nous avons soutenu, parce que on peut émettre toujours des réserves, et le texte méritera d'être amélioré en deuxième lecture, mais parce qu'on pensait qu'il y avait là quelque chose d'intéressant et d'utile pour répondre à ce fléau, pour répondre à cette situation intolérable. Donc, encore une fois, le gouvernement doit apprendre ce qu'est composer avec une Assemblée nationale dans laquelle il n'est pas majoritaire. Je me réjouis que, pour une fois, ces velléités d'obstruction ou de ralentissement de l'initiative parlementaire n'aient pas abouti, que nous ayons pu faire adopter ce texte.
Benjamin Lucas, la Commission européenne a validé la suppression des vols intérieurs courts en France. C'est ce que réclamaient depuis longtemps les écologistes. Avez-vous le sentiment, même si vous n'êtes pas majoritaire dans les urnes, que les idées défendues par les écologistes sont aujourd'hui en train de progresser dans la société française ?
Oui, elle progresse par la force des choses. La réalité du réchauffement climatique n'est aujourd'hui plus discutable. La réalité de l'impact des activités humaines sur le réchauffement climatique n'est plus discutable aujourd'hui. La question maintenant qui est posée, c'est face au réchauffement, il y a deux attitudes possibles. Il y a l'attitude du repli, du chacun pour soi, du sauf qui peut finalement, qui serait une réponse autoritaire, qui serait une réponse brutale, qui serait une réponse profondément inégalitaire, puisqu'elle pénaliserait d'abord les plus précaires et les plus modestes. Et puis il y a la réponse démocratique, la réponse du partage. Faisons de ce choc climatique un choc de partage et de justice sociale pour protéger toutes et tous, et d'abord celles et ceux qui sont les premières victimes du réchauffement climatique, qui sont les plus précaires. Celles et ceux qui vivent le plus dans des passoires thermiques, ce sont les plus pauvres. Celles et ceux qui sont les plus dépendants de la voiture, ce sont souvent les plus pauvres qui travaillent loin de chez eux ou qui cherchent du travail. Celles et ceux qui souffrent le plus des factures d'électricité qui augmentent sont évidemment les ménages les plus modestes. Donc on voit bien qu'il y a finalement la réponse de repli ou la réponse écologiste, et je crois que nous arriverons évidemment à convaincre et on voit que là cette réponse par exemple sur la suppression des vols intérieurs va dans le bon sens. Il y a aujourd'hui une absurdité qui est qu'une toute petite, une infime minorité de gens peut polluer à excès, peut s'accaparer la richesse et les ressources naturelles. Tout ça n'est plus acceptable, et donc moi je crois qu'il faut commencer par là, d'abord exiger de ceux qui le peuvent le plus facilement les efforts avant d'aller chercher celles et ceux qui n'ont pas le choix aujourd'hui, ou alors qui vivent dans la sobriété, mais dans une sobriété contrainte parce qu'ils n'ont pas les moyens de se chauffer, de se nourrir convenablement ou de vivre tout simplement dignement.
Sur cette question des transports, Emmanuel Macron a annoncé qu'il souhaitait la création de 10 lignes de RER dans toute la France. Je vois que plusieurs villes se sont portées candidates. Est-ce que c'est une mesure qui va dans le sens de l'histoire ?
Oui, mais alors pourquoi dans ce cas-là, son gouvernement a-t-il supprimé par le 49-3 les milliards d'euros que nous avions injectés dans la relance du ferroviaire? On voit bien là qu'il y a... l'écologie peut pas se payer de mots. Le président de la République a tort de jouer de façon cynique avec la cause du climat aujourd'hui. Donc tant mieux si on fait ces RER. Il faudra pas oublier non plus les TER qui sont aujourd'hui le transport du quotidien et de la proximité pour les Françaises et les Français. Mais encore une fois, entre les mots et les actes, avec ce pouvoir, avec ce gouvernement, avec ce président de la République, il y a un fossé, et moi ça m'inquiète beaucoup. On peut pas, l'urgence est telle qu'on ne peut pas se payer de mots, il faut des actes et il faut l'investissement financier, économique, politique qui va avec les déclarations d'intention.
Alors, le gouvernement nous prépare à de possibles coupures électriques en cas de pénurie d'énergie cet hiver. Est-ce que les députés sont associés à ce plan? Est-ce que ce plan peut être amélioré?
Écoutez, nous ne sommes pas associés. On entend des choses dans la presse, ici ou là, avec une impréparation et quand même aujourd'hui une légèreté dans les discours sur ce sujet qui est assez inquiétante. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que chacune et chacun prenne ses responsabilités. Encore une fois, plutôt que de culpabiliser les Françaises et les Français, qui, je le rappelle, ont déjà le chauffage le plus bas possible parce que la facture vient se rappeler à chacune et à chacun à la fin du mois, aller voir comment on peut partout faire les efforts nécessaires. Et tout ça prouve qu'il faudra largement investir dans les énergies renouvelables dans les années qui viennent, puisqu'on voit bien, le nucléaire aujourd'hui ne nous protège pas de cette situation, alors qu'on nous vantait le nucléaire comme réponse à tous les maux des difficultés énergétiques.
Alors ce lundi, c'était la journée du bénévolat. Est-ce que l'instauration d'un revenu universel pourrait aider les associations à recruter davantage de bénévoles? On sait que les associations reposent principalement sur ces bénévoles.
Je vous remercie d'en parler parce que c'est, je crois, le cœur d'un de mes engagements. On a dans ce pays, et moi particulièrement dans ma circonscription, la 8e des Yvelines, Mantes-la-Jolie, Limay, Mantes-la-Ville, etc., on a un tissu associatif exceptionnel. On a des milliers de gens, des millions de gens dans ce pays qui s'engagent bénévolement au service de l'intérêt général, au service des solidarités concrètes, au service de la fraternité. Ils sont indispensables à nos communes, à nos quartiers. C'est l'éducation populaire, c'est la solidarité, c'est le sport, c'est la culture, c'est les loisirs, bref, tout ce qui nous permet de faire société et de vivre un peu heureux et de s'épanouir. Il y a besoin de les soutenir. Et le revenu universel, c'est une manière de reconnaître un apport à la société, c'est une manière d'encourager cet apport à la société qui est un apport altruiste de celles et ceux qui s'engagent de façon bénévole, qui parfois attendent la retraite pour pouvoir le faire, et bien qui pourraient le faire plus tôt et plus vite. Donc moi je dis un grand coup de chapeau, bravo et vive les bénévoles dans notre pays, et soyons à la hauteur avec un revenu universel d'existence de cette vision nouvelle et différente de la société. Ce sont des gens qui travaillent sans forcément être considérés comme des travailleurs, il y a là une forme d'injustice.
Dernière question, entre Éric Ciotti et Bruno Retailleau, est-ce que vous faites une différence puisque ce sont les deux finalistes de l'élection interne pour la présidence de LR?
Écoutez, moi, entre Bruno Retailleau venu à la politique avec Philippe Devilliers et Éric Ciotti qui a expliqué qu'il refusait de choisir au second tour de la présidentielle face à Marine Le Pen, je suis d'abord triste qu'il n'y ait plus de droite républicaine dans ce pays. Je crois que on a le week-end dernier enterré définitivement le grand parti gaulliste et républicain qui existait dans ce pays. Et je suis extrêmement inquiet parce qu'on voit bien qu'il y a aujourd'hui la nécessité face à la montée de l'extrême droite de reconstruire une digue républicaine. Donc je ne choisis pas entre les deux. Je crois que cette affiche de second tour est un très mauvais signal pour la République et pour les valeurs qui fondent la démocratie.
Merci Benjamin Lucas, je rappelle que vous êtes député des Yvelines, membre du groupe écologiste à l'Assemblée nationale et membre de Génération. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.